Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au cinéma. Le cinéma comme vecteur d'influence, voire comme outil stratégique à part entière dans la puissance des nations. Si jamais aucun pays n'est parvenu à ce jour à atteindre l'hégémonie que les États-Unis sont parvenus à installer, la plupart des nations développées ou émergentes ont créé des industries du cinéma, ayant bien compris que pour briller dans le concert des nations, un pays ne peut se passer de développer à grande échelle son industrie filmique. Le cinéma comme bras armé du soft power, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Pierre Conessa, spécialiste des questions géopolitiques, ancien fonctionnaire du ministère français de la Défense, auteur de plusieurs ouvrages et pour ceux qui nous intéressent aujourd'hui, Holy War, Hollywood, arme de propagande massive, publié chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Monvoisin, chercheur associé à l'IRCAV, l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle et à l'INALCO. Frédéric Monvoisin qui a la particularité d'avoir étudié le cinéma asiatique ou plutôt les cinémas asiatiques dans plusieurs laboratoires nationaux, japonais, coréens, indonésiens. Bonjour.
Bonjour.
L'hégémonie du cinéma américain, les chiffres sont impressionnants. Les films hollywoodiens représentent 70% du box-office mondial. 99 des 100 plus grands succès mondiaux sont issus d'Hollywood. Dans les pays européens, le cinéma américain occupe 80 à 95% de l'espace, alors que les films français, pourtant deuxième sur les marchés occidentaux, ne réalisent pas 4% de part de marché chez leurs voisins européens. Cette part plus que prépondérante d'Hollywood n'est pas le fruit du hasard, on va le voir, mais plutôt celui d'une stratégie peut-être pensée de longue date, ce qu'on va voir. On peut ainsi évoquer le fort soutien du gouvernement américain dont a bénéficié Hollywood et rappeler qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en échange de l'aide économique américaine avec le plan Marshall, les États-Unis ont imposé une ouverture totale des salles de cinéma européens aux films américains. Il en a été de même en Asie, je pense à la censure imposée par les Américains entre 1945 et 1952 au Japon. Les Américains, Pierre Conessa, ont su faire en sorte de permettre à leur cinéma de prendre une part prépondérante. Est-ce qu'on peut parler de stratégie ?
Je ne sais pas si on peut parler de stratégie parce que je crois que c'est une espèce de communauté de conception qui unit effectivement les autorités politiques, les producteurs hollywoodiens, puis il y a une espèce de nationalisme exacerbé qui traverse toute la société américaine. Il y a certainement articulation politique, par exemple dans l'après-guerre, c'est-à-dire dans la période où, avec par exemple le plan Bloom-Burn, c'est-à-dire quand Léon Blum, premier ministre français après la guerre, va chercher un crédit aux États-Unis, une des conditions mises par les négociateurs américains, c'est l'ouverture des salles françaises au film américain avec des quotas. La production française essaye de résister, mais enfin, c'est très difficile. Et donc, finalement, là, vous avez l'articulation précise d'une stratégie. C'est-à-dire que, très, très intéressant, c'est que le grand succès d'Hollywood dans l'après-guerre, c'est parce qu'Hollywood produit des films formidables, optimistes, dans lesquels le happy end, si vous voulez, l'emporte, alors que nous, on produit des films, si vous voulez, sur la guerre, l'occupation et les souffrances de la guerre. Le public attend quand même plus de pouvoir rire, si vous voulez, après l'occupation, que de se repencher sur ces périodes troubles. Donc c'est intéressant, si vous voulez, ça vous montre combien c'est beaucoup plus qu'une stratégie, c'est une conception culturelle.
Frédéric Monvoisin, cette censure que j'évoquais en introduction, imposée par les Américains entre 1945 et 1952 au Japon, là aussi ça a permis au cinéma américain d'entrer en force.
Alors, le cinéma américain était déjà entré en force à la fin des années 10, après la Première Guerre mondiale, justement parce que le marché japonais était plutôt dominé dans les importations par les films européens et notamment français. Il y a eu un basculement parce qu'on a arrêté de produire avec la guerre de 14-18, donc ils étaient déjà là. La censure américaine, elle a surtout eu pour effet de modifier les thématiques et les enjeux du cinéma japonais lui-même. C'est-à-dire que c'était pas une question tellement de quotas et de gérer les films en eux-mêmes que les contenus. Il y a eu, de mémoire, 53 thèmes que le cinéma japonais n'avait plus le droit d'aborder.
Par exemple,
La guerre, l'occupation américaine, on n'avait pas le droit de parler de la censure, les bombes atomiques d'Hiroshima, de Nagasaki étaient des sujets interdits, on ne pouvait pas parler des alliés des États-Unis, on ne pouvait pas parler de la Corée, on n'avait pas le droit de parler de la Russie, enfin des thèmes comme ça, on n'avait pas le droit de parler de l'empereur, la question impériale était extrêmement sensible, et c'est d'ailleurs elle qui va faire basculer en 47 cette question de la censure. C'est John Dower qui parle d'un basculement dans une politique du tabou, parce qu'avant, donc on gagne un contrôle avec des thèmes qui sont interdits, thèmes et d'autres thèmes qui sont autorisés, mais pour en faire la promotion, on demande au cinéma japonais de faire en gros la propagande de la politique d'occupation américaine. Et va sortir en 47 un film qui est un film de propagande qui s'appelle Tragédie du Japon, qui est réalisé par un documentariste qui s'appelle Kamei Fumio, qui fait la promotion de la politique américaine pleinement, sauf que à un moment donné, il aborde la question de l'empereur et du tribunal de Tokyo, où l'empereur a été exempté de même de jugement. Et il aborde cette question-là en mettant en relief un certain nombre d'images, et notamment, au bout d'un moment, il fait un fondu enchaîné où l'empereur passe d'une tenue de dirigeant des armées à simple civil. Et ça a été perçu comme une manière de déresponsabiliser l'empereur et comme une volonté américaine, comme un retour de discours sur cette question-là. En 47, la question vient juste de s'arrêter au Japon. C'était une vraie polémique. Certains Japonais estimaient que l'empereur devait être condamné, au moins jugé, si ce n'est condamné. Et du coup, le film va être retiré des salles alors qu'il est sorti au bout de 2 jours. Et le producteur a frôlé la faillite. Et de fait, plus aucun producteur japonais, plus aucun réalisateur japonais ne va vouloir flirter avec ces thèmes-là. Et ça va instaurer un blackout total sur tous les thèmes qui tournent autour de la guerre jusqu'en 52.
Alors,
au moment où ils s'en vont.
Oui, et on reviendra sur Hiroshima. Pierre connaît ça, cette interdiction de parler de certains thèmes. Elle existe dans le cinéma américain. Vous l'évoquez dans votre ouvrage. On parle assez peu, ou en tout cas on a mis très longtemps avant de parler de l'esclavage. On ne parle pas des tueries à grande échelle dans les écoles américaines. On ne parle pas non plus du stress post-traumatique dès lors que des soldats américains sont partis à l'étranger. Et puis les armes chimiques, ça, ce sont des sujets particulièrement tabous. Après ça, on reviendra sur la notion d'ennemi et l'idée que Hollywood a une obsession de la menace.
C'est-à-dire, Hollywood a cette caractéristique d'être un cinéma extraordinairement critique sur la société américaine elle-même, avec des films fantastiques sur le Pentagon Papers, sur des tas d'épisodes comme cela, mais en même temps totalement, comment dire, propagandiste dès qu'il s'agit de parler de l'autre. Bon. Deuxième aspect, il est vrai que Hollywood ne veut pas traiter certains sujets. Celui des mass shootings, par exemple, c'est-à-dire ces massacres de masse, n'a été traité qu'une seule fois par un cinéaste qui n'a en fait été autorisé à le diffuser que dans 11 salles et finalement le film a disparu. Et RKO avait payé la production et en fait ils ont même refusé de le diffuser. Parce que probablement on est dans quelque chose qui est une espèce de blessure intérieure de la société américaine qui ne veut pas en parler. Autre exemple que vous citez, c'est-à-dire celui du syndrome post-traumatique, qui est un syndrome qui touche beaucoup de combattants. Vous savez, le fait de faire la guerre, d'enfoncer une baïonnette dans le ventre d'un ennemi, c'est pas quelque chose qui vous laisse intact au bout du compte. Les super-héros américains n'ont jamais fait la guerre eux-mêmes. Sylvester Stallone n'est pas allé au Vietnam, je ne sais pas pourquoi. John Wayne non plus, il n'a pas fait la guerre, etc. Et donc, vous avez un décalage entre la représentation de la guerre et la guerre elle-même, et évidemment la représentation du héros et de le héros lui-même. Alors, il y a un exemple qui est très caractéristique, c'est que le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale s'appelait Audie Murphy. C'est un type qui a eu à un moment une petite carrière à Hollywood après, parce qu'on a voulu raconter un peu, valoriser ce héros américain. Mais le problème, c'est qu'il souffrait du syndrome post-traumatique et effectivement, il est devenu fou. Mais vous n'allez pas expliquer qu'une vedette d'Hollywood est en train de mourir dans un asile psychiatrique. Et donc, finalement, à un moment, il disparaît et il est remplacé par ces super-héros qui sont produits en Syrie, qui sont capables à eux seuls de vous gagner une guerre ou de vous ravager un pays ou éventuellement de vous détruire une ville comme le fait Rambo 1, quoi.
Alors, cette censure, est-ce que c'est une censure auto-imposée ou c'est une censure qui est imposée de l'extérieur? C'est l'occasion peut-être de parler des liens entre Hollywood, la CIA et le Pentagone. Et pour aller contre ce que vous disiez à l'instant, Pierre Conessa, né un 4 juillet où on voit les soldats rentrer et se retrouver hospitalisés dans des conditions absolument déplorables aux États-Unis, ça nous a quand même renvoyé, le film a peut-être 20 ans, une image quand même de ce qui se passe aux États-Unis, la façon dont les soldats sont accompagnés.
Non, la véritable coopération avec les pouvoirs, avec le Pentagone en particulier, sont dans les périodes de guerre. Mais il n'y a pas d'instruction directe des autorités politiques sur le cinéma américain. Par contre, il y avait une très forte pression des ligues morales, parce que le cinéma était considéré comme un moyen de perdition. Donc très tôt, si vous voulez, des villes installent des commissions de censure, principalement peuplé d'ailleurs par des ligues morales qui vont imposer ce qu'on appellera par la suite le code ICE, qui est un code d'autocensure hollywoodienne, dans lequel en particulier toutes les questions sexuelles sont écartées. C'est là que l'autre est intéressant, parce que l'autre, lui, vous permet de vous présenter des femmes aux jambes nues ou avec des grosses poitrines, parce que, évidemment, ce sont des autres. Ce sont des sauvages quand c'est les Indiens.
L'autre en tant qu'étranger.
Donc, chez lui, si vous voulez, le code peut pas s'appliquer. L'Indienne peut être jambes nues, puisque après tout, c'est une sauvage. C'est pas un problème. Donc, vous voyez, le cinéma a lui-même joué avec ses codes. Et donc, on n'est pas dans une censure de nature politique. On est dans une espèce de compromission extraordinaire du cinéma avec le pouvoir qui fait que vous avez décrit la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, les négociateurs américains considèrent que le cinéma est un marché comme un autre. Et nous, on considère, vous connaissez, vous savez, qu'on est là, on défend l'exception culturelle, comme les Coréens d'ailleurs, hein, parce qu'on considère que justement la machine de production est tellement puissante que de toute façon, elle l'emportera. Et c'est vrai qu'elle l'emporte. Simplement, si on ne prend pas des mesures de protection ici, protéger notre propre cinéma, et si éventuellement on n'impose pas, à l'inverse, que des films français qui ont réussi ne soient pas américanisés, ça, c'est l'autre méthode de protection américaine. C'est-à-dire, quand un film a réussi, on vous fait le même avec les mêmes séquences de découpe, avec les mêmes scènes, etc., mais avec des acteurs américains. Et donc, les Américains sont toujours convaincus que tous les bons films sont tous américains.
Alors, Hiroshima, Frédéric, mon voisin, on l'évoquait tout à l'heure, ça a été un des sujets au Japon qui a mis un temps fou à sortir et à pouvoir...
Non, justement. Dès que les Américains vont quitter les commandes, donc en 52, les Japonais vont se réapproprier les enjeux de leur histoire. Le premier film de fiction qui aborde la question de Hiroshima s'appelle Les Enfants de Hiroshima en français, Genbaku no Ko. Il a été réalisé par Shindo Kaneto, il est de 52. Par contre, il échappe au pouvoir politique dans le sens où c'est un film qui est commandé par la ville, par les habitants, qui est fait de façon locale, mais qui est absolument extraordinaire à voir parce que il aborde la bombe atomique sous tous les aspects qui vont être ceux de la prise en charge mémorielle de la bombe, qui repose elle-même sur des pratiques un peu plus anciennes qui remontent au grand tremblement de terre de 23, en gros. On va faire une étape où on va considérer la bombe dans sa dimension scientifique. Mmh. Qu'est-ce qu'une bombe atomique? Comment elle fonctionne? On l'explique. Dans son côté humain, l'impact sur les vies, sur les corps, sur la société, le tissu social, et dans une forme iconographique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce film-là de 52 est fait en même temps qu'est construit justement le mémorial de Hiroshima, dont on voit la construction dans le film, c'est quelque chose comme document qui est assez extraordinaire, et reprend exactement les mêmes mécanismes de prise en mémoire. C'est une prise en charge qui va être très forte et au contraire très rapide, c'est-à-dire que le film de 52 est jugé insuffisant, on va dire, par la population de Hiroshima, ce qui fait que les habitants vont demander un nouveau film.
Insuffisant dans quel sens?
Ils trouvent que ça va pas assez loin, qu'il n'est pas assez dur. Il y avait eu ce blackout par les autorités américaine, ce qui fait que, à travers le Japon, on savait un petit peu. Michael Luken a fait des travaux, qui est japonologue, a fait des travaux montrant que, un peu sous le manteau, le thème circulait et que les gens étaient quand même informés. Je trouve que ce film en témoigne bien, parce que le film sort dès que les Américains partent, et une maîtrise parfaite de ce qu'est la bombe. C'est-à-dire que si vous voyez le film et que vous allez visiter le mémorial de Hiroshima, vous retrouverez exactement les mêmes ingrédients. Mais du coup, il y a une forme de rationalisation du processus, y compris dans le travail de mise en scène, qui d'ailleurs va beaucoup influencer René quand il fera Hiroshima, mon amour. Mais il y a un côté, je vais dire, le pathos est un peu absent. Et du coup, en 53, ils vont commander un autre film à un autre cinéaste qui s'appelle Sekigawa Hideo, qui s'appelle juste Hiroshima, et qui va être un film que moi j'appelle citoyen, parce qu'il est fait par les habitants. Il y a 2-3 acteurs professionnels, et tout le reste du casting, ce sont les habitants de la ville. Et le film se termine d'ailleurs sur la commémoration qui a lieu en août 53 de toute la ville qui traverse pour commémorer la mémoire des survivants. Et là, avec un pathos très très fort, c'est-à-dire qu'on a une petite introduction et pendant plus d'une heure, on a la bombe atomique avec les survivants, comment ils traversent la ville, la traversée du fleuve pour se rafraîchir, le regroupement, la découverte des morts, avec une musique abominable qui est derrière très très lourde. Mais en fait, les années 50 vont tout de suite prendre en charge la mémoire de la guerre, de l'occupation, mais pour un public local. Nous, on connaît un autre versant des années 50, c'est Mizoguchi, Kurosawa, etc., qui, d'une certaine manière, est fait pour nous, mais les Japonais, eux, vont consommer vraiment un cinéma de l'après-guerre. Il n'y a que 2 thèmes, à ma connaissance, qui vont vraiment être relayés dans le temps, qui aujourd'hui encore sont des sujets sensibles au Japon. C'est justement la question de l'empereur, qui suite à, pour moi, 47, est quelque chose qui n'a jamais été remis sur la table au Japon. Et puis il y a la question d'Okinawa, où la population a été massacrée par l'armée américaine, et il y a toujours cette question. Moi, j'arrive pas à trouver d'éléments concrets pour savoir si c'est du fantasme, mais il y a cette idée que les autorités japonaises seraient responsables aussi de ce massacre-là, qu'elles auraient sacrifié en quelque sorte Okinawa pour sauver l'île principale d'une grosse invasion.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites là pour évoquer le rôle du cinéma dans la conflictualité, pour essayer de comprendre un peu comment les Japonais ont géré leurs relations avec les États-Unis. Et je me tourne vers vous, Pierre Conessa, comment est-ce que le cinéma américain traite l'eau l'autre. Vous dites dans votre ouvrage qu'il y a un vrai besoin aux États-Unis d'un ennemi. Comment expliquer cette obsession hollywoodienne de la menace? Alors l'autre, vous l'évoquiez, c'est le jaune, c'est le noir,
c'est
le rouge, l'indien, c'est
le jaune, par exemple. Il y a toute la gamme du jaune, toute la palette du jaune, depuis le chinois, le manchou, jusqu'au coréen, au vietnamien, évidemment, au japonais. Je crois que le cinéma, en tout cas pour le cas cinéma hollywoodien, a deux fonctions. D'abord, c'est un cinéma épique. La guerre est tournée d'une manière qui n'a strictement rien à voir avec la guerre. Je vous en cite un exemple. Rambo 2, il retourne au Vietnam et il tue 76 personnes. Je les ai comptées. Mais je me suis peut-être trompé parce que dans un autre endroit, j'ai trouvé 86. Bon. Est-ce que vous imaginez une minute qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie? C'est-à-dire un ancien combattant algérien qui retourne en Algérie et qui tue 76 Algériens. Ça ferait un scandale politique gigantesque ici. Aux États-Unis, non. Qui, encore une fois, assume cette fonction que je vous évoquais. C'est-à-dire qu'on rejoue le match perdu. On refait la guerre. Et les spectateurs en sortent avec l'idée que si on avait envoyé ces super-héros sur place, ils vous auraient évidemment régler facilement la chose. Deuxième chose, le film, quand on parle d'une défaite, les films hollywoodiens, même sur le Vietnam, même les meilleurs films sur le Vietnam, ne prennent à aucun moment la thèse de l'autre. C'est-à-dire jamais, à aucun moment, ils ne considèrent que le Vietnamien avait raison dans sa posture. Je ne parle pas des documentaires, hein, je parle des fictions. Et là, c'est essentiellement centré sur la douleur du soldat. C'est-à-dire le soldat est obligé de faire des choses ignobles, mais c'est la guerre, si vous voulez, qui l'excuse. Et ça, c'est la fonction, si vous voulez, que joue tout cinéma. Simplement, une différence essentielle entre le cinéma français sur l'Algérie, par exemple, et le cinéma américain sur le Vietnam, c'est que le premier film français sur la guerre d'Algérie, c'est 20 ans dans les Aurès. Et 20 ans dans les Aurès, c'est un soldat qui déserte pour ne pas avoir à faire la corvée de bois. C'est-à-dire qu'il va partir avec son prisonnier, il va s'en aller face à la frontière. Aux États-Unis, encore une fois, vous n'avez que la souffrance du soldat américain. Vous n'avez jamais autre chose que ça, excepté encore une fois dans des documentaires. Et donc on est bien dans quelque chose qui est une espèce de manière de revisiter le passé pour dire qu'après tout, finalement, tout est perdu for l'honneur, si on devait citer une citation française. Et ça, le cinéma américain n'a absolument pas cette fonction critique. Même sur l'Irak, tous les films sur l'Irak, il n'y a pas un seul Irakien positif dans ces films. Pas un seul. C'est toujours soit des gens cruels, soit stupides, soit lâches. Bon, il y a une catégorie qui est assez variée, ça offre plusieurs rôles. Mais si vous prenez des films comme Des Mineurs, si vous prenez des films comme American Sniper, vous n'avez que des héros négatifs chez les autres.
Vous dites que c'est d'autant plus important, cette absence de fonction critique du cinéma américain, que le cinéma fait l'éducation des Américains. Je veux dire, par là, il n'y a pas d'ouvrage, il n'y a pas de ministère de l'éducation aux États-Unis, c'est un État fédéral. Autant d'États, autant de lectures différentes de l'histoire, et peut-être que finalement, c'est Hollywood ou le cinéma américain qui a cette fonction de créer une histoire commune. D'où le danger que vous évoquez dans cette vision qui est celle d'Hollywood.
Je crois qu'il y a effectivement une chose qui nous étonne beaucoup, nous Français, c'est qu'il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Et comme il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas de programmes nationaux. Et donc c'est de la responsabilité de chaque État d'assurer à la fois ce que la dose d'enseignement de l'histoire que chaque élève va recevoir ou éventuellement de le supprimer complètement. Ça c'est le deuxième aspect. Un libraire américain avec qui je discutais, je disais je voudrais voir vos manuels d'histoire, il n'y en a pas, il m'explique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire effectivement, me dit-il, moi-même j'ai fait deux années d'histoire, une année d'histoire des États-Unis, une année d'histoire universelle. L'histoire universelle en un an, c'est du condensé. Bon. Et il me dit mais nous ne sommes pas intéressés par l'histoire, nous sommes intéressés par le futur. Ce qui est assez intéressant comme posture. Alors, pensez au débat que nous avons nous quand il s'agit de savoir comment on va parler d'esclavage, comment on va parler du commerce triangulaire, etc. Et c'est un rapport à l'enseignement d'histoire qui est totalement différent. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est que c'est Hollywood qui construit le récit national. Alors nous, on avait Michelet, qui avait effectivement un souffle épique, qui avait alimenté tous les programmes de la Troisième République. Mais Hollywood continue à produire continuellement cette mythologie. Quand j'en discute avec des cinéphiles, si vous voulez, je suis parfois très surpris parce qu'ils me disent « mais enfin, t'es en train de critiquer Hollywood ». Et j'ai l'impression d'être Martin Luther, si vous voulez, critiquant les indulgences. C'est-à-dire, les gens me disent, mais on est en train de critiquer la papauté. Oui, on critique la papauté, ouais. Et ça, c'est quand même très surprenant, parce qu'encore une fois, ma jeunesse a été alimentée par les mauvais films. J'étais un enfant de Babel-Ouen et on allait au cinéma que pour voir des westerns. Donc, si vous voulez, je suis le meilleur spécialiste mondial des mauvais films hollywoodiens, ce qui est une rareté.
Une exception. Frédéric Monvoisin, il nous reste une minute pour terminer cette première partie d'émission. Quelques mots, et on poursuivra dans la deuxième partie, évidemment, sur la construction de l'histoire nationale. Ce qu'évoque là Pierre Conessa pour les États-Unis est aussi vrai au Japon?
Alors, pas du tout, mais c'est assez passionnant. Il y a quelques quelque chose qui fait écho, alors pas au Japon, mais à l'Asie. Comme moi, je travaille sur ce qui a constitué l'empire colonial japonais. Ce qui est passionnant, c'est que ce qu'il évoque sur l'idée que chaque État est propriétaire d'une version de l'histoire, moi, chaque pays l'est. Quand on se met, comme je le fais, à l'intersection de ces historiographies, on découvre des choses absolument extraordinaires sur l'usage de l'histoire. Sur tous les pays que j'ai abordés, il y a peut-être une exception qui serait Taïwan. L'histoire est plus compliquée, elle relève de choses. Mais par exemple, en Corée et au Japon, l'histoire est très importante. Au Japon, le Japon est réputé pour, d'un point de vue scientifique, des historiens pour être un des pays les plus sérieux dans la rigueur et dans le travail. Dans la diffusion, dans la société, c'est autre chose.
On vous retrouve dans la deuxième partie de l'émission pour nous parler du cinéma asiatique géopolitique. Nous retrouvons nos invités Pierre Conessa et Frédéric Monvoisin.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur le cinéma comme vecteur d'influence, voire comme outil stratégique à part entière dans la puissance des nations. Nous retrouvons nos invités Pierre Conessa, spécialiste des questions géopolitiques, ancien fonctionnaire du ministère français de la Défense, auteur de plusieurs ouvrages et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, Holy War, Hollywood, arme de propagande massive, publié chez Robert Laffont, et Frédéric Monvoisin, chercheur associé à l'IRCAV, l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle et à l'INALCO, Frédéric Monvoisin qui a la particularité d'avoir étudié les cinémas asiatiques dans plusieurs laboratoires nationaux, japonais, coréens, indonésiens. On a terminé la première partie de l'émission sur cette notion de construction de l'histoire nationale aux États-Unis faite par Hollywood. Frédéric Monvoisin, est-ce que l'on retrouve cela dans le cinéma asiatique ?
Il y a une dimension qui peut ressembler à ce qu'évoquait Monsieur Konetta sur le partage. En Asie, chaque pays anciennement partie de l'empire colonial japonais, a une prise en charge de l'histoire qui est différente. Là où, à mon avis, il y a une vraie différence, c'est que la plupart des États ont une véritable prise en charge de l'histoire dans les pays d'Asie, donc la Corée, le Japon, la Chine, etc. L'histoire est un instrument politique principalement de cohésion nationale, pour beaucoup. Je pense surtout à la Corée, quand je dis ça. Souvent, on a en tête le Japon. Il me semble qu'au Japon, l'histoire est relativement bien étudiée et bien transmise au niveau des individus. Le rapport aux politiques, qui est, lui, plus révisionniste, est autre chose, mais dans la société. Par contre, en Corée, il y a une véritable instrumentalisation, je trouve, de l'histoire, qui est là depuis les années 50, c'est-à-dire depuis à peu près, en gros, la fin de la guerre de Corée, avec un usage qui a été fait par le premier président qui était Lee Seung-man, qui a un peu joué des enjeux de l'occupation japonaise, de la décolonisation, et puis du rapport aux troupes communistes, avec des phénomènes d'assimilation, le méchant japonais, le méchant communiste, mais pour asseoir son pouvoir, qui est quelque chose qui a été un outil qui est resté tout au fil des années, jusqu'au moins dans les années 80, où c'était vraiment les méchants qui justifiaient certaines politiques un peu dures et autoritaires. Il y a eu deux dictatures en Corée du Sud, justifiées par cette menace du méchant communiste et du méchant japonais. Donc le rapport me semble assez différent à ce niveau-là. Maintenant, il y a un travail avec le cinéma qui va être très très fort et où on retrouve exactement le même schéma, mais là avec de vraies instrumentalisations politiques assez ouvertes, notamment en Corée. En Asie, ils se détestent tous entre eux, les Japonais, les Chinois, les Coréens, donc le méchant est souvent celui-là. Souvent l'Américain est un méchant aussi, hein. On pourrait parler du cinéma japonais dans les années 60-70, avec notamment Wakamatsu qui avait cette formule très tranchée de dire les Américains je les déteste, comme ça il n'y avait pas de discussion, mes films sont anti-américains, je les déteste. Mais en Corée dans les années 70, le méchant était surtout le communiste, qui était construit sur un mécanisme où on reprenait les archétypes qu'on avait donnés aux Japonais avant, donc c'était un méchant par glissement un peu, et qui avait servi dans les années 70 à justifier la confiscation des pouvoirs politiques aux institutions locales par les militaires. Pour le dire simplement, l'un des discours qu'on retrouvait assez fréquemment dans les films consistait à montrer que les mairies, les municipalités, la société civile pouvaient être infestées par les communistes, qui du coup pouvaient prendre le contrôle des territoires, alors que l'armée était, elle, impénétrable. Et qu'il fallait confier les rênes à l'armée parce qu'elle était la seule capable de protéger les citoyens. Il y a un film que j'aime beaucoup sur ça qui est Jim Kwantek, qui est une des plus grandes figures du cinéma coréen. Le film s'appelle Testimony et c'est justement l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord. Et on a un film où la Corée du Nord avance, l'armée sud-coréenne du coup recule et entre les deux, les populations civiles essayent de fuir pour rejoindre le front sud-coréen pour être protégées. Et à un moment donné, les deux frontières se rapprochent énormément, les habitants sont entre les deux et heureusement les militaires sud-coréens viennent défendre. Donc on a comme ça un glissement qui s'opère, mais qui reprend un peu des aspects.
Oui, parce que finalement, je me tourne vers vous, Pierre Conessa, la notion d'ennemi, finalement, elle est commune à tous les cinémas du monde.
Elle est commune à toutes les identités nationales, sauf l'Europe. C'est-à-dire l'Europe s'est construite parce qu'on a supprimé, si vous voulez, ce rapport de conflictualité qu'on avait avec l'Allemagne. Rappelez-vous que dans les années de l'entre-deux-guerres, on parlait de la France et de l'Allemagne comme des ennemis héréditaires, c'est-à-dire qu'il fallait hériter de la haine de l'Allemagne de vos propres parents et inversement de l'autre côté du Rhin. Donc on a quelque chose qui est très original en Europe, qui est justement cette absence de construction de l'ennemi dans la production culturelle. Par contre, les Américains sont prêts à effectivement varier. C'est peut-être ça la différence avec le cinéma japonais, c'est que la typologie des méchants, si vous voulez, a été extrêmement variée, parce que les scénaristes sont très imaginatifs. Par exemple, les Noirs, vous aviez des typologies, vous aviez la mama, vous avez le lazy, le type qui est sur le bord du Mississippi et qui veut pas travailler, etc., etc. Le Chinois, ça va être l'homme cruel et qui torture, comme si tous les Chinois avaient une cave dans laquelle ils passaient leur temps à faire des tortures sur les gens. Et donc, vous avez cette créativité des scénaristes japonais pour varier dans la gamme de l'ennemi. Par exemple, pour revenir sur un film extraordinaire qui s'appelle Bataille au-dessous de la Terre, on imagine que des Coréens creusent un tunnel sous le Pacifique pour aller mettre des bombes atomiques sous les bases américaines. Vous vous rendez compte? Alors déjà, moi j'ai visité le tunnel qu'ils ont essayé de faire pour franchir la DMZ, je peux vous dire qu'ils ont mis du boulot. Mais alors imaginez
que le tunnel... DMZ, c'est la zone entre les deux Corées.
Oui, c'est ça. Et donc là, j'ai visité, le tunnel doit faire à peu près 300-400 mètres, dont une partie nord-coréenne qui ne se visite pas, évidemment, puisqu'il est muré. Mais vous imaginez à peu près ce que ça a dû être de creuser simplement dans ce bloc de rocaille. Alors première version, c'est les Coréens, deuxième version, c'est les Chinois. Et donc, il n'y a pas de limite dans la construction de la menace, on peut l'imaginer arriver directement sous terre.
Alors, la Chine, justement, Frédéric, mon voisin, comment le pouvoir chinois se sert-il du cinéma? Et est-ce que le cinéma chinois est un outil du pouvoir?
Alors, très très clairement, votre question, elle pose un problème qui est assez récurrent de discussion, alors peut-être entre spécialistes, mais le problème de savoir ce qu'on nomme le cinéma chinois. Parce qu'en fait, on nomme deux choses différentes cinéma chinois. Le cinéma qui est de langue chinoise, qui est finalement fait sur plusieurs territoires nationaux avec parfois des ambitions qui sont opposées, notamment la Chine et Taïwan, ou le cinéma fait en Chine continentale. Alors dans un cas comme dans l'autre, le cinéma est extrêmement politique puisque c'est un outil de discussion et de négociation entre ces pays d'une certaine manière. Ce qui est intéressant quand on commence à penser non pas un cinéma chinois mais des cinémas chinois pour garder le terme et avoir d'un côté la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, on se rend compte que ce sont des cinémas souvent qui évoluent en fonction des actions politiques qui se passent soit de manière locale, soit dans les pays voisins. Donc on voit que en 49, lorsque les communistes vont prendre le pouvoir en Chine, le cinéma de Chine continentale va progressivement abandonner tout un tas d'éléments qui faisaient l'identité culturelle chinoise au sens fort, c'est-à-dire les références au théâtre, à la littérature, à la peinture, à la calligraphie, la grande littérature, ces arts-là, pour aller vers un cinéma qui pour moi relève du conte, c'est-à-dire un cinéma qui est moralisant. Dans les films un peu récents, il y a toujours Hero de Chang Yimou qui doit dater de 2002, où c'est l'histoire de cet assassin qui met toute une stratégie en place pour s'approcher de l'empereur et pouvoir l'assassiner. Et au moment où il est assez prêt pour tuer l'empereur, il réalise que l'empereur est juste, a raison, et qu'il doit prendre des décisions difficiles pour le bien du peuple. Et du coup, il se sacrifie et meurt comme symbole. L'assassin meurt comme symbole. Mais du coup, de l'autre côté, toutes ces qualités artistiques qui sont tenues par des gens qui sont mis en péril en Chine, il faut rappeler hein, qu'il y a eu le grand bond en avant qui a vidé les élites des grandes villes vers les campagnes. Donc les gens ont dû partir et se sont réfugiés notamment à Hong Kong, au Vietnam, etc. Puis ensuite, il va y avoir la révolution culturelle qui va encore chasser d'autres populations. Et ben Hong Kong va se faire le fief, va se nourrir de tout ce qui est interdit en Chine. En off, on évoquait tout à l'heure le cinéma des arts martiaux de Hong Kong qui va naître complètement de ces interdits-là et fait par des gens qui viennent de ça. Les deux grands cinéastes, les deux figures de proue du cinéma des années 60-70 sont Chang Che et King Wu. King Wu est appelé le lettré. C'est quelqu'un qui vient de la calligraphie, qui était scénariste, qui a fait de la littérature. Chang Che travaillait au théâtre. Et en fait, ils vont basculer leur pratique artistique traditionnelle qu'ils faisaient en Chine dans le cinéma et y ajouter des enjeux politiques.
Alors, j'ai cette question. Le cinéma asiatique, le pivot vers l'Asie, le développement économique de cette région, dans quelle mesure est-ce qu'il a changé le regard du monde sur l'Asie? Et Pierre Conessa, est-ce que précisément le développement économique de l'Asie et du cinéma, l'un allant probablement avec l'autre, peut être vu comme une menace pour le cinéma américain?
Je crois que d'abord, ça traduit un besoin d'expression culturelle qui est vrai pour les pays d'Asie, comme l'a expliqué Frédéric, mon voisin. Moi, j'ai en tête le problème du cinéma iranien. C'est très intéressant parce que vous vous souvenez qu'au moment de la révolution islamique, on commence par interdire tous les cinémas. Et puis, on entre dans la guerre, et à ce moment-là, on se rend compte du rôle que peut jouer le cinéma dans la propagande. Donc, on se met à produire en Iran des films de guerre, si vous voulez, classiques, méthode hollywoodienne, etc., où vous avez des gentils et des méchants. Mais le problème, c'est à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout à coup, cette société qui a besoin enfin de respirer après 8 ans de guerre a besoin qu'on remplisse la tuyauterie des télévisions. Et donc, il y a deux choix. Soit ils achètent américain, ce qui est quand même exclu, soit ils achètent indien, mais comme il y a toujours des femmes qui dansent avec le ventre à l'air, si vous voulez, ils peuvent pas acheter indien. Donc, ils se mettent à produire. Et ils produisent du cinéma de qualité. C'est-à-dire qu'on est toujours en droit de se demander comment ce régime arrive à produire du cinéma de qualité. Mais c'est parce que c'est un besoin culturel profond. Alors, là où Hollywood, si vous voulez, est un problème, c'est qu'Hollywood ferme les frontières à ses cinémas. Je vous prends un exemple. Le film de Kurosawa sur les sept samouraïs. Sept samouraïs, c'est une histoire qui se passe au Japon avec des paysans japonais exploités par des bandits japonais qui sont sauvés par des samouraïs japonais. Version américaine, ça devient des paysans mexicains opprimés par une bande mexicaine et sauvés par des cow-boys américains. Donc en fait, vous voyez comment on adapte quelque chose, parce que par nature, le Mexicain, ça peut être que ce type, vous savez, au début du cinéma muet, le Mexicain, il était toujours qualifié de greasy, c'est-à-dire qu'il était gras, huileux, mal rasé. Vous voyez la typologie du Mexicain dans les westerns. Et donc, en fait, on vous américanise les bons films. Donc la question, c'est quel est le taux de pénétration des films étrangers sur Hollywood? Et ce taux de pénétration est nul, parce que soit ils sont américanisés, soit ils n'entrent pas, ou ils restent limités à la côte est et à la côte ouest. Et ça, c'est un véritable problème, parce que cette société, qui est pourtant une société multicouche, où vous avez continuellement des arrivées...
Aussi
et finalement très fermé culturellement. Vous savez, la moitié des parlementaires américains n'ont pas de passeport. C'est pas qu'ils soient véritablement intéressés par le monde environnant.
Et alors, Frédéric Monvoisin, à l'inverse, la diffusion du cinéma asiatique en Occident, elle marque une progression réelle? Je veux dire, on voit aujourd'hui des films coréens en Europe.
On voit beaucoup de films coréens depuis une dizaine d'années, parce que depuis une dizaine d'années, la Corée a une politique de diffusion internationale extrêmement forte, très agressive et très très structurée. Ça résulte de tout un processus.
C'est sur l'exception culturelle avec nous d'ailleurs.
Oui, mais alors qui est un petit peu revenu, parce qu'ils avaient des lois protectionnistes qui sont tombées au milieu des années 90, qui avaient d'ailleurs fait crier la profession. Les cinéastes coréens s'étaient réunis sur une place publique et s'étaient rasé la tête en signe de protestation. Mais justement, ils ont fait tomber les lois protectionnistes, parmi lesquelles, il y en avait plusieurs, mais il y en a une qui était intéressante, c'est qu'un film étranger ne pouvait être distribué que par un distributeur coréen. Et les distributeurs coréens, pour pouvoir distribuer un film étranger, devaient, je me souviens plus du chiffre exact, je crois avoir distribué 10 films coréens. Donc le protectionniste était quantitatif. Quand c'est tombé, ça a permis d'inonder le marché coréen. Mais ça s'est fait à un moment où il y avait une réorganisation des modalités de production. Et ce qu'on appelle les chaebol, les grands conglomérats coréens, se sont mis à investir de l'argent dans le cinéma coréen. Ça a créé des blockbusters, les blockbusters coréens, et avec des gens, des techniciens notamment, et des scénaristes qui étaient formés à Hollywood. Donc avec un savoir-faire totalement différent. Et dans le milieu des années 90, la fin des années 90, plus justement, il y a eu un basculement où le cinéma coréen est devenu premier. On parlait là du besoin culturel. La Corée a eu un besoin culturel de consommer son propre cinéma. Et une fois qu'il était mis en place, en fait, les lois protectionnistes ne servaient plus à rien sur le marché local. Et donc on a déplacé ça vers autre chose. Et la Corée a investi sur un soutien sur l'international. Pas tellement en finançant le cinéma qui était pris en charge par les grandes entreprises, mais en finançant d'un côté le COFIC, qui est Korean Film Council, qui est l'équivalent du CNC d'une certaine manière, mais qui a un rôle de vitrine pour le cinéma. Et de l'autre côté, la Korean Film Archive, qui a investi dans la restauration et la création d'un patrimoine cinématographique en Corée qui manquait. Et ils ont fait ça à un moment où le numérique arrivait plein pot. Ce qui fait que vous pouvez vous connecter sur YouTube et d'une manière totalement légale et légitime, regarder 100 ans de cinéma coréen. Et vous avez une autre plateforme qui s'appelle Kobiz, numérique elle aussi, qui est à destination des professionnels. Et vous pouvez regarder n'importe quel film coréen actuellement en salle, en Corée, pour pouvoir le distribuer. Donc ils ont fait une vitrine qui permet d'aller chercher très très facilement, et avec un cinéma qu'on dit un cinéma monde, c'est-à-dire qui est capable de séduire tout le monde. Donc ils ont fait un truc très très solide, et qui du coup en même temps, comme c'est financé par Samsung, par Hyundai, par ces groupes-là, est une vitrine qui permet de vendre des produits.
Pour revenir à la Chine, Pierre Conessa, on voit pas de films chinois, et Frédéric Monvoisin évoquait le distinguo qu'il y avait à faire dans les différents cinémas chinois, mais est-ce que la Chine ne fait pas de l'influence à travers le cinéma une arme stratégique pour elle, ou est-ce qu'on peut en imaginer les raisons? Est-ce que c'est
oui,
trop
mais enfin,
tôt dans
la Chine
le temps?
Oui, joue dans le championnat de France amateur actuellement. Si vous voulez, moi j'ai connu l'époque de la Chine où il y avait la fille aux cheveux blancs et puis l'escadron féminin rouge. Bon, il y avait deux films dans les cinémas chinois. C'était ces deux seuls films autorisés. Le paysage a un peu changé. Ils ont eu des producteurs de qualité. Ils ont des... Donc, effectivement, mais il y a un tel décalage. Alors, ils ont un avantage énorme. C'est qu'ils ont un marché intérieur gigantesque. Oui. Et donc, ça, ils peuvent effectivement, eux, sans se poser de problème, avoir des mesures protectionnistes. Mais ils ont surtout été capables de faire naître, si vous voulez, un certain nombre de réalisateurs, d'acteurs, de scénaristes qui font des films assez remarquables. Mais après, se pose la question de la diffusion. Moi, si vous vous demandez combien de films chinois passent effectivement dans les salles du Middle West, je suis bien incapable de vous répondre, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui passent. Et donc, encore une fois, c'est la volonté de se manifester culturellement suppose que l'autre accueille. Autant chez nous, si vous voulez, vous allez avoir un festival du cinéma américain, un festival du cinéma chinois, un festival du documentaire. Je suis pas sûr qu'aux États-Unis, dans l'Iowa ou dans le Montana, si vous voulez, il y ait des festivals destinés à ouvrir, si vous voulez, ce patrimoine. Moi, je me suis appuyé sur deux ou trois documentaires qui ont été faits par des Américains à double nationalité, c'est-à-dire Américains, Sino-Américains, Arabo-Américains, etc., qui ont essayé de traduire pour les Américains la façon dont leur propre culture était vue. Et donc, chacun de ceux-là se sont visionnés 200 à 300 films, si vous voulez. Et c'est extraordinaire parce qu'ils arrivent aux mêmes conclusions que moi. C'est-à-dire que, vous voyez, ma sensibilité, c'est pas celle d'un Européen. C'est celle de quelqu'un qui ne veut pas entrer dans cette espèce de rabot, si vous voulez, culturel que constitue la production culturelle américaine. Et donc, on est bien face à une société qui ne veut pas intégrer des cultures, ou en tout cas accepter que ces cultures puissent exister à parité avec la société américaine.
Alors nous, en tout cas, Frédéric Monvoisin, on a eu à voir quelques films ces dernières années, chinois, en France, alors quelques, peut-être que c'est un ou deux, mais particulièrement critiques. C'était jamais directement dirigé contre le gouvernement chinois, mais c'était sur les potentats locaux, la corruption. Voilà, des films assez forts, je me souviens pas.
Le Dieu à Gambine, je pense, notamment. Oui. Qui, du coup, lui, n'a pas d'exploitation en Chine.
Internet.
Donc, qui est tourné vers l'extérieur. On a des films chinois. Après, il y a justement des choses qui deviennent assez compliquées, parce que depuis le début des années 2000, il y a énormément de coproductions entre la Chine et Hong Kong qui gardent une forme d'indépendance, quand même. Dans les textes, Hong Kong reste indépendant jusqu'en 2046. Enfin, on l'oublie souvent parce que dans les faits, effectivement, la Chine est aux commandes. Mais légalement, il y a toujours une indépendance. Donc, on a des films qui sont coproduits entre la Chine et Hong Kong, où les grands cinéastes dont on parle sont pour l'essentiel des cinéastes hongkongais quand même, ou alors ceux de la cinquième génération qui sont encore là. Donc, on parle d'un cinéma qui finalement est vraiment tourné vers la scène internationale, et d'autant plus que, si je reprends Jianzhenke, qui est peut-être le plus connu, plus que Wang Bing, parce qu'il est plus accessible. Moi, je me pose sincèrement la question de sa longévité. C'est-à-dire que quand on regarde ses modes de financement, Jianzhenke était principalement, j'ai envie de dire, financé par Kitano Office, c'est-à-dire un studio de production japonais, qui était dirigé par Takeshi Kitano. Kitano vient d'annoncer qu'il quittait Kitano Office, et donc tout le monde au Japon s'attend à ce que Kitano Office fasse le dépôt de bilan. S'ils font le dépôt de bilan, qui va financer Jianzhenke? Et dans quelle mesure on parle d'un cinéma vraiment chinois? Il est bien de nationalité chinoise, il vit en Chine, il fait un cinéma qui n'est pas consommé en Chine et qui existe grâce à des capitaux étrangers.
Bien connaît ça.
Vous remarquerez l'extraordinaire absence du cinéma musulman ou arabe, si vous voulez, dans cette production. Hollywood a produit un film sur Mahomet, qui s'appelle Le Messager, et ils ont choisi comme technique cinématographique que on voit l'histoire de Mahomet à travers les yeux du prophète. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais le prophète, c'est lui qui est en fait la caméra. Il a fallu 10 ans après pour que, enfin, un des cinéastes musulmans se lance sur cette question-là, parce que c'était pratiquement inimaginable jusque-là. Donc, vous avez aussi un cinéma américain qui sert éventuellement à des populations qui sont sous censure. Il y a un film américain sur un cas iranien extraordinaire qui était un homme qui veut se débarrasser de sa première femme parce qu'il n'a pas de quoi entretenir d'eux, donc il finalement va lui mettre sur le dos une histoire d'adultère pour laquelle elle va être lapidée. Ce film circule sous le manteau à Téhéran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le cinéma américain, il a aussi cette capacité à apporter à l'autre cette bouffée d'oxygène que les sociétés locales n'autorisent pas. Et donc cette fonction hollywoodienne, il faut aussi la lui reconnaître, c'est-à-dire qu'elle peut se lancer sur des sujets qui sont tabous chez les autres, pas toujours chez elle, hein, sur le ma shooting, j'attends toujours le premier film.
D'ailleurs, si juste parce que ça, il y a une chose intéressante avec la Chine, c'est-à-dire qu'en Chine, il y a des quotas et c'est très difficile. Et les films américains circulent sous le manteau, sur le marché noir, sur etc. En piratage, c'est l'un des rares territoires. Je me demande même si c'est pas le seul où Hollywood ne dépose pas plainte. Parce que ça circule en pirate, parce que justement, c'est son unique moyen d'accéder au marché et finalement de commencer à le créer par ce vecteur-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont capables d'utiliser toutes les stratégies, y compris celles qui relèvent de circuits officieux et illégaux. Il y a d'autres modalités. En Indonésie, ils ont des choses aussi comme ça, comme mesures protectionnistes.
Pierre connaît ça, alors en guise de conclusion.
Je voudrais juste citer un exemple que je trouve très amusant. Vous avez vu ce film Argo. Ce film Argo est l'histoire de la libération des Américains qui avaient réussi à échapper à la prise de l'ambassade par les étudiants révolutionnaires dans la révolution islamique en 79 et qui vont se cacher dans l'ambassade du Canada. Et donc, le personnage principal est joué par Ben Affleck, qui est un agent de la CIA, qui va arriver sous une espèce de prétexte consistant à dire qu'il tourne un documentaire sur la révolution, etc., et qui va leur permettre de les exfiltrer. Les protestations ne sont pas venues de l'Iran, elles sont venues du Canada. Le Canada a dit, mais attendez, vous foutez du monde, c'est pas votre agent qui a passé une journée sur place, c'est l'ambassadeur canadien qui a fait tout le boulot. Vous pouvez pas faire un film avec Ben Affleck qui ne passe qu'une demi-journée à Téhéran. Donc toute l'histoire est reconstruite pour faire un héros américain. Et là, ça, comme la critique vient du Canada, c'est difficile de l'écarter.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. En tout cas, vraiment, cette question du cinéma, un sujet géopolitique sur lequel j'espère on aura l'occasion de revenir. Merci à nos invités, Pierre Conessa, spécialiste des questions géopolitiques et ancien fonctionnaire du ministère français de la Défense et auteur, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de Hollywood, arme de propagande massive, publié chez Robert Laffont, et Frédéric Monvoisin, chercheur associé à l'IRCAV, l'Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel, chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle et à l'INALCO. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie